Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est bien sur choc.ca, c'est le tome 38, le chapitre 410 de Mission Encre Noire qui commence. Personne ne le sait, mais disons que ça s'est passé comme ça. Allons-y à tâtons, pensait Alexandra. Françoise, après avoir retenu un cri qu'elle savait inutile, a pivoté sur ses talons et s'est mise à penser à sa survie. Un cri dans la forêt, avec un guide sourd qui avait probablement éteint ses appareils auditifs. Ça s'en allait dans le vide, ça ne servait à rien. Ça montait dans l'air sec et lourd et ça ne pouvait rien faire d'autre que retomber aussitôt. Elle savait que son guide avait quelques minutes d'avance, autant dire une éternité. Elle s'est engagée dans la direction qu'elle croyait être la bonne, entre les pins verts foncés et les épinettes noires, entre les moustiques et les mouches. Il y avait des essaims de petites bestioles qui lui tournaient autour. Françoise ne pensait qu'à retrouver les traces de son passage, retrouver par terre une trace de semelle, une fougère écrasée. C'était peut-être elle qui tournait autour de l'essaim. Elle savait à peu près où était l'avion, où était le trou qu'elle venait de creuser, n'est-ce pas? Elle savait à peu près où aller. Et puis, 2 minutes ont passé, 3. Le soleil a bougé d'un millimètre, à droite ou à gauche, impossible de le dire. Elle ne le savait plus. Elle ne savait plus ce qui était à droite, ni à gauche. Les points cardinaux redevenaient ce qu'ils avaient toujours été, de pures abstractions invisibles et muettes. Le soleil bougeait, mais elle n'avait aucune idée d'où il s'en allait, ni d'où il venait. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait d'Héroïne et tombeau par Daniel Grenier, paru en 2023 aux éditions Héliotrope. Alexandra Pearson, originaire du Tennessee, lit le New York Times dans cette ville secondaire brésilienne à l'ouest de Porto Alegre, Uruguayana. Aujourd'hui, journaliste, la jeune femme qui avait cheminé aux côtés de Françoise dans le roman précédent de l'auteur part à la recherche, 100 ans plus tard, d'un étrange personnage, Ambrose Bierce, auteur du Dictionnaire du Diable, qui serait mort fusillé en 1915 au Mexique et réapparu bien vivant à des milliers de kilomètres plus loin. Elle devra pour cela mettre la main sur un manuscrit inédit. Pendant ce temps, comme l'annonce le journal, une certaine Hélène Klaben décède à l'âge de 76 ans, qui autrefois fait la une du Life magazine le 12 avril 1963, après avoir survécu 49 jours dans le froid du Yukon, après le crash de leur avion le 3 février 1963. Étrange coïncidence, ce nom, elle l'avait déjà entendu, il lui rappelait un souvenir amer, celui de Françoise, cette fille à qui elle n'a raconté que des mensonges. À l'époque, elle se faisait appeler Samantha. Dans ce troisième roman, qui se veut un hommage à Ernesto Sabato, l'auteur nous entraîne dans un étrange roman d'aventure dans lequel il explore une fois encore le territoire américain et s'interroge sur la responsabilité de celui qui raconte les histoires des autres. Sur un air de Carioca, j'accueille ce soir à Mission Encre Noire, Daniel Grenier. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Eric, ça va bien?
Ça va bien,
c'est
ça va bien.
C'est une description.
Ah, n'est-ce pas? Alors tu es écrivain.
Oui, ça va. Je me demande souvent si je suis capable de décrire le roman. J'aime ça écouter les gens le faire pour moi comme ça, pour savoir comment ils vont réussir à se dépatouiller avec l'intrigue, disons, tentaculaire qui commence quelque part et qui s'en va dans différentes directions, disons.
Eh ben, c'est bien drôle que tu en parles, parce que ça fait partie d'une de mes questions, parce que toi aussi, dans tes manigances et tes jeux, tu donnes quasiment une présentation de ton roman à l'intérieur du texte, mais j'y reviendrai. Juste pour commencer, juste pour informer ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, mais voyons, précipitez-vous. En tout cas, Daniel Grenier, vous êtes écrivain, traducteur, vous vivez à Québec, vous êtes l'auteur de L'année la plus longue, paru en 2015, qui a remporté le prix littéraire des collégiens. Vous avez aussi publié un recueil de nouvelles, deux essais et un autre roman, Françoise en dernier, paru en 2018, en plus de signer plusieurs traductions d'œuvres du Canada et des États-Unis. Votre plus récent livre, Les Constellés, est paru en 2020. Alors, Héroïne et tombeau fait clairement référence au second roman d'Ernesto Sabato, intitulé Héros et tombe, l'écrivain argentin. Pourquoi cette similitude assumée? Vous dites vous-même dans une entrevue dans Le Devoir récemment qu'il s'agit d'un palimpseste de l'œuvre de Sabato.
Ah ouais, disons que ça fait longtemps que ça me suit, cette idée-là. Ça fait partie, disons, de ma... de l'obsession de cette espèce d'obsession de rendre hommage à ces écrivains et ces écrivaines qui m'ont précédé, qui fait un peu partie de mon bagage littéraire. Ernesto Sabato, c'est un écrivain très important pour moi, un écrivain très important pour la littérature du 20e siècle, la littérature argentine, la littérature américaine en général. Et cette façon-là qu'il a eu, Sabato, de construire son œuvre, elle m'a longtemps inspiré, elle m'habite depuis longtemps. Cette façon de construire non pas nécessairement une suite de romans, mais plutôt un cycle romanesque. Ça fait longtemps que j'ai envie de rendre hommage, de faire un clin d'œil, mais là on est allé, c'est-à-dire que dans Héroïne et tombeau, je vais un petit peu plus loin que le simple clin d'œil, dans la mesure où j'avais envie de créer quelque chose de formellement très proche de ce que Sabato avait fait effectivement, même si évidemment c'est un roman qui, à mon avis, se tient très bien tout seul, évidemment. Je l'ai pas construit comme quelque chose qui est totalement en reflet avec Héros et tombes. Je l'ai construit en palimpseste, justement, dans l'idée que c'est comme si je me permettais d'arracher le manuscrit de Sabato pour placer le mien à l'intérieur de sa structure romanesque et tout, en reprenant pas des personnages, en reprenant pas les thèmes exacts que Sabato lui-même abordait, mais plutôt en reprenant la structure formelle, le nombre de chapitres, le nom des sections, par exemple, jusque évidemment, comme vous, ce à quoi vous faisiez allusion, à cette idée de reprendre le titre.
Mmh. Vous parlez de cycle, justement, c'est un peu ce qui peut-être explique, comme je le disais en intro, que la quête de Françoise, un de vos personnages, débute dans votre roman précédent, et on retrouve quasiment les pages reprises à l'identique dans la dernière partie de celui-ci. Alors pourquoi ce copier-coller? Justement, c'est du fait que vous parliez que vous vouliez entamer un cycle, c'est ça?
Oui, ben, en fait, quand j'ai écrit Françoise en dernier, c'était déjà un projet que j'avais en tête de poursuivre l'aventure, mais encore une fois, pas dans l'idée de faire une suite à Françoise, c'est-à-dire de raconter d'une façon conventionnelle, tu sais, mettons, ce qui est arrivé à ces personnages-là une fois qu'elle s'enfonce dans la forêt, etc., en donnant des détails. L'idée, c'est de construire une vision romanesque qui vient reprendre certains éléments, les pousser plus loin, prendre des chemins de traverse. Donc, par exemple, en l'occurrence, c'est d'utiliser ce personnage secondaire qui est quand même, on s'entend, là, qui est quand même important dans le roman précédent, mais on vient lui donner le rôle principal ensuite. Ça éclaire l'histoire d'une façon différente et aussi ça remet en perspective certaines émotions, certains échanges qui ont été introduits dans le roman précédent. Cela dit, je trouve ça, évidemment, pour moi, ça fait un petit lourd de vous entendre mentionner les passages qui sont, par exemple, repris à l'identique, qui sont repiqués, et qui s'inscrivent, eux aussi, évidemment, dans le même genre de démarche de reprise, de clin d'œil, d'effet de miroir, d'effet de double sur lesquels je travaille depuis le début, dans le fond, de mes ambitions littéraires, si on veut, là, avec mon recueil de nouvelles, malgré tout, Henri à Saint-Henri. Ensuite, L'année la plus longue, qui incluait aussi plusieurs clins d'œil littéraires comme ça. Puis le fait d'aller dans Héroïne et tombeau, de pousser la note jusqu'à reprendre certaines pages de Françoise en dernier, c'est la même idée en fait, poussée à son paroxysme d'une certaine manière. C'est juste que dans le fond, Alexandra, qui est la protagoniste d'Héroïne et Tombeau, devient la narratrice elle-même, l'écrivaine de ces passages-là qu'on retrouvait dans un roman précédent signé par quelqu'un d'autre, moi dans ce cas-ci.
Alors, qu'est-ce qui vous inspire tant dans l'histoire du Brésil, du Mexique, de l'Argentine? Y voyez-vous un prolongement de l'histoire plus globale du continent américain que vous avez déjà entamé, je dirais, avant?
C'est difficile à dire. C'est quelque chose qui me vient, dirait-on, instinctivement. Puis je le comprends aussi comme une... je ne vais pas jusqu'à dire un désintérêt, mais disons une façon de me tenir loin d'une espèce de grande tradition littéraire européenne qui, bien sûr, m'a beaucoup porté, m'a beaucoup bercé pendant mes études. Mais pour moi, il y a comme un réflexe instinctif d'aller explorer du nord au sud, du sud au nord, pour aller voir qu'est-ce que ça veut dire. La notion de frontière, les notions poreuses d'identité qui s'étendent, si on veut, sur le continent américain, en Amérique du Sud, en Amérique latine, en Amérique centrale, en Amérique du Nord. Ici, dans Héroïne et Tombeau, c'est le cas du Brésil qui est le plus poussé, qui est le plus exploré, dans la mesure où c'est pas quelque chose qui fascine Alexandra autant que ça me fascine moi nécessairement. Donc, à ce moment-là, mon personnage devient pas mon porte-parole parce qu'elle est américaine, elle est du Tennessee, elle vient du sud des États-Unis, elle a pas ce rapport, disons, particulièrement, disons, canadien-français, québécois, au territoire nord-américain, au territoire américain en général. Mais pour moi, évidemment, il y a cette question-là à explorer qui est intéressante en tant que Québécois, d'aller voir qu'est-ce qui, au Brésil, vient faire écho à ma propre identité francophone dans le Brésil, ce grand pays portugais, lusophone, perdu dans la mer hispanophone, donc qui se pose pas les mêmes questions par rapport à la survie de la langue, mais qui a un même rapport insulaire, par contre, à son identité.
Alors, lorsque je disais tout à l'heure que vous avez peut-être vous-même écrit un résumé de votre roman dans ce roman, bah oui, j'ai trouvé un extrait que vous donnez à travers la bouche même d'Alexandra, un de vos personnages principaux. Je cite... Elle n'avait pas l'intention d'écrire sur son père, non, c'était plus compliqué que ça. Son père n'allait pas supplanter Ambrose Bierce. Elle avait l'intention d'écrire sur ça, sur ce qui lui arrivait en ce moment même, sur Uruguayana et Martim Castillo, sur la visite du phare où le manuscrit avait été retrouvé, sur la mort d'Hélène Klaben et la quête de Françoise Mercier, son envie de se fondre dans la nature, sur la frontière mexicano-américaine et sur la frontière argentino-brésilienne, sur la mort inventée de toutes pièces dans les livres et la paranoïa véritable qui avait des conséquences funestes. Mais est-ce qu'elle allait pouvoir écrire sur les anthropophages? Est-ce justement un résumé de votre roman volontairement dissimulé dans les pages de votre livre?
Je ne sais pas si c'est un résumé tant qu'une sorte de caution que je me donne à moi-même. C'est-à-dire que je sais qu'Alexandra a besoin elle-même d'une sorte de justification. Elle se cherche des justifications pour pousser à bout ce projet-là qu'elle veut. D'un côté abandonné, hein, elle ne veut plus parler elle ne veut plus écrire sur ce qu'elle avait pensé écrire au départ. Elle veut faire autre chose de plus complexe, de plus qui s'approche, qui va chercher des réflexes d'écriture différents chez elle. Et c'est comme si moi, à l'intérieur même de sa pensée, je me formulais le droit d'écrire ce roman-là que j'avais envie d'écrire aussi en poussant ces questions-là, en réintégrant le personnage de Françoise à l'intérieur de cette histoire de cannibale, cette histoire de secte qui veut un peu qu'on pourrait décrire comme loufoque, mais qui est aussi horrifiante évidemment, que j'ai voulu rendre réaliste sur le plan de l'horreur puis de la paranoïa. Intégrer Françoise à ça, réintégrer Françoise à ça, réintégrer Hélène Klaben, c'est aussi aller vers autre chose que les tropes habituelles, si on veut, de la littérature, qu'on a tendance à pousser, qu'on a tendance à explorer jusqu'à plus soif, là, c'est-à-dire réintégrer une certaine forme de bienveillance une certaine forme de banalité aussi que j'essaie de travailler depuis longtemps.
Alors Alexandra part à la recherche d'un étrange personnage qui a existé, Ambrose Bierce, un contemporain de la littérature de genre, tel Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, sur qui Carlos Fuentes a écrit un roman, Le Vieux Gringo. Alors si on devait faire un petit portrait rapide de ce fameux Ambrose Bierce, et qu'est-ce qui vous a fasciné chez ce personnage ?
Un écrivain intéressant pour plein d'aspects, entre autres parce que son œuvre n'est pas particulièrement transcendante. Il écrit plein de trucs intéressants. Ambrose Bierce, à une certaine époque, vous mentionniez Edgar Allan Poe, Mary Shelley, tout ça, les contemporains de cette écriture en fait, qui commence, là, qui termine le gothique, qui commence le roman d'horreur, le roman fantastique et tout ça avec Poe. Il est aussi contemporain. Son grand rival à son époque, c'était Mark Twain. Donc, Ambrose Bierce a beaucoup touché aussi à la littérature comique, aux commentaires sociaux. Donc, certaines de ses nouvelles, là, ce qu'on appellerait des nouvelles de fantômes, là, des histoires de hantées par souvent qui se règlent par une explication logique ou des trucs comme ça, très à la mode à une certaine époque. Certaines ont survécu, certaines ont mieux survécu que d'autres. Il a écrit beaucoup aussi sur la guerre civile en tant que jeune soldat. Ça, c'est des textes qui ont relativement bien vieilli aussi. Mais, encore une fois, c'est pas pour lui enlever du crédit littéraire, mais évidemment, Bierce est fascinant pour le milieu littéraire depuis longtemps à cause de sa disparition, bien sûr. À cause du mystère entourant ce moment de sa vie, alors qu'à quoi, à 70 ans, presque 75 ans, il décide d'aller couvrir la révolution mexicaine et ne donne plus de nouvelles. Et bon, évidemment, de là, tout la spéculation, puis le plaisir de la spéculation que Carlos Fuentes avait exploré, comme vous mentionniez, sans jamais le nommer, cela dit, hein, Le Vieux Gringo, c'est un roman qui parle du vieil homme, du vieil écrivain, du vieil américain, justement, le vieux gringo, qui est présent au Mexique dans les rangs de Pancho Villa, mais c'est pas quelqu'un qui est nommé en particulier, donc ça reste un roman un peu halluciné, un peu onirique dans ce sens-là. Cette figure-là d'Ambrose Bierce, elle a fasciné bien du monde, bien avant Alexandra, en fait. Alexandra, la grosse différence, c'est que, tout l'argument de mon livre à moi, c'est que là, elle a accès à une source qu'elle considère comme fiable en tant que journaliste, qui est, on rentre dans le registre de la fiction, bien sûr, qui est ce fameux manuscrit que Ambrose Bierce aurait écrit une dizaine d'années plus tard, caché dans un mirador du Rue Guayana, caché à ses oppresseurs parce qu'il est un peu en fuite, il est un peu, il se sent persécuté par disons-le d'emblée, là, une secte, une société secrète de gens qui ont décidé que le pouvoir de l'humanité résidait dans le fait de manger son prochain pour acquérir son pouvoir ou sa force. Mmh.
Voilà. Mais Ambrose Bierce, pour vous, c'est du bonbon.
Ça résume un peu le rapport de Bierce dans le roman.
Oh ouais, mais c'est vraiment un personnage exceptionnel. Enfin, c'est-à-dire qu'il a une vie épique. Sa mort, écrivez-vous, est la définition même de la littérature. Je vous cite, « La littérature prenait la matière du vivant, du réel et la magnifiait. Elle prenait la vie et la mort et jouait avec dans une galerie de miroirs et de faux semblants. » C'est une définition qui vous va bien, ça?
oui, tout à fait. En fait, c'est une définition qui résume bien, à mon sens, le paradoxe fondamental de la fiction, du roman, qui continue à m'habiter, qui continue à me faire, à me donner beaucoup de plaisir, mais qui crée en même temps une grande méfiance dans la façon de, justement, puis c'est ce qu'on abordait au début de notre conversation, dans la méfiance par rapport aux responsabilités, aux droits qu'on se donne de raconter des histoires. Pour moi, de jouer avec la vie d'Ambrose Bierce, il y a un droit que je m'octroie en tant qu'écrivain qui n'est pas le même que celui que je prends, par exemple, en parlant de la vie d'une personne comme Ellen Klaben, qui est décédée pour vrai en 2008, de qui j'avais parlé dans Transport l'an dernier aussi. Donc le rapport à la responsabilité, le rapport à la souveraineté de l'écrivain aussi est changeant, émouvant. Mais je pense que c'est des questions que je pose de façon oblique, à la fois oblique et presque explicite par moment dans Héroïne et tombeau. C'est sans aucun doute des questions qu'Alexandra se pose en tant que journaliste qui ne veut pas devenir romancière, qui se sent parfois devenir romancière, qui sent qu'elle joue dangereusement avec des tropes ou des façons de faire que les romanciers se donnent le droit d'utiliser.
Mmh. Oui, mais vous posez le rapport à la vérité également, parce que vous reproduisez par exemple une page Wikipédia qui présente le pilote d'Hélène Kleben. Les faits mis en valeur dans la notice Wikipédia sont les plus marquants, les plus clinquants. Est-ce que cela résume une vie pour autant ? Mmh. Est-ce que cela nous dit qui était Ralph Flores, le fameux pilote ? Est-ce que le roman permet d'aller plus loin en façonnant ce personnage, en montrant ses zones d'ombre et les zones d'ombre du roman également?
Je ne sais pas si le roman réussit à le faire, mais une chose est sûre, c'est que les romanciers et les romancières ont tenté de le faire, ont tenté de démontrer que effectivement c'était le rôle du roman de nuancer, de venir explorer les zones grises, explorer les zones d'ombre des hommes et des femmes. Voilà, moi j'ai l'impression que il y a des questions qu'on est en train de se poser par rapport à cette souveraineté, à ce grand pouvoir de la fiction qui viennent un peu disons remettre les pendules à l'heure puis complexifier ce genre de rapport là à la nuance puis aux zones grises, aux zones d'ombre, explorer la psyché humaine. Donc, ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui continue à m'intéresser, qui continue à me fasciner, mais que j'ai l'impression qu'il n'est pas nécessairement, qui se jouerait peut-être dans un en dehors de la fiction, là. Mm-hmm. Bon, évidemment, de jouer avec la réalité de la page Wikipédia, pour moi, ça exprimait bien ce rapport-là paradoxal avec le, qu'est-ce qui vaut la peine d'être raconté, qu'est-ce qui vaut pas la peine d'être raconté, dans la mesure où la page Wikipédia de Ralph Flores mentionne Hélène Kleben sans même créer de lien vers une page qui n'existe pas, évidemment. Donc c'est un peu ça, c'est ça qu'Alexandra vient mettre en lumière dans son analyse dans le texte.
Alors, on sent que vous discutez le format du roman. Le roman de Sabato, d'ailleurs, joue aussi sur les mécanismes du roman. C'est quoi raconter une histoire ? Qui la raconte ? Où se joue la frontière entre fantasme et la réalité ? C'est une question qui se trouve quasiment dans tous vos livres. Vous citez Oswald et Andrade, le manifeste anthropophage en exergue, qui dit « Ne m'intéresse que ce qui n'est pas moi ». C'est un paradoxe pour un écrivain, non ?
Oui, tout à fait. Écoutez, justement, la phrase de Andrade, elle est intéressante dans la mesure où elle vient exprimer de façon claire et nette ce paradoxe et cette critique aussi qu'on peut avoir par rapport au romanesque, par rapport à la fiction, par rapport à l'écrivain qui se targue non seulement de pouvoir exprimer ce qu'il veut, mais qui s'octroie le droit de le faire aussi. Donc, je vais enlever le droit à quiconque d'écrire des romans. Évidemment pas, c'est mon métier, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime lire aussi. Mais ne m'intéresse que ce qui n'est pas à moi. C'est une phrase que les anthropophages, le mouvement anthropophage brésilien mené par Oswald de Andrade dans les années 20, justement, ce mouvement moderniste qui cherchait à venir cannibaliser les influences européennes pour en faire quelque chose de purement brésilien, c'était déjà dans le fond un angle mort de cette réflexion-là, de dire ce qui m'intéresse, ce n'est pas moi, ce qui m'intéresse, ne m'intéresse que ce qui n'est pas à moi. Ça vient bien exprimer ce paradoxe-là, d'après moi, qui est un peu irréconciliable dans le métier d'écrivain. Alors, cannibaliser l'histoire des autres, voilà. T'sais. On sait qu'on continue à le faire, qu'on peut pas s'empêcher de le faire, qu'il y a quelque chose de captivant, de fondamentalement intéressant à venir s'approprier, s'octroyer l'histoire des autres. Mais ensuite, il s'agit de, d'être capable ensuite de voir les angles morts qui sont, disons, qui viennent miner un petit peu les projets, tout ça. Dans le cas des anthropophages, pour moi, c'est intéressant parce que ça me semblait clair, puis même que je mets ces mots-là dans la bouche d'Ambrose Bierce qui parle avec ses amis brésiliens à ce moment-là, mais tu trouves pas que c'est un peu paradoxal ton rapport, par exemple, au cannibalisme, ton rapport, par exemple, au peuple autochtone de l'Amazonie. Il n'y a pas un peu de primitivisme dans cette approche-là que tu prônes, toi qui es si méfiant des influences européennes, etc. Et à ce moment-là, Oswald Jandrade qui se fâche, qui est comme « Non, tu comprends rien, espèce de gringo, tu comprends rien au Brésil et tout. » Donc, je me suis un peu amusé justement à aller voir, à aller creuser ces angles morts-là qui étaient déjà présents dans le, évidemment, dans le surréalisme, dans le dadaïsme, et qui ont été repris ensuite de ce côté-ci de l'Atlantique, sans même que ces gens-là soient nécessairement conscients de ce qu'ils reproduisaient, de ce qu'ils reconduisaient comme stéréotypes ou comme primitivisme.
Alors, Hélène reçoit finalement le fameux manuscrit intitulé « Rapport sur les anthropophages » qui fait à peine 100 pages et que vous reproduisez en entier. Alors évidemment, la question de l'anthropophagie, qu'est-ce que cela représente pour vous? Est-ce un tabou, une déviance bourgeoise, la survie d'une fétichisation de la mort, comme l'était la danse macabre au cinéma chez Jean Renoir? Qu'est-ce que cela symbolise et pourquoi nous reproduire intégralement ce faux vrai rapport?
Ben évidemment, la question de la reproduction intégrale, elle vient justement, elle s'intègre dans le projet de reprendre la forme de Héros et Tombes, de reprendre la structure du roman d'Ernesto Sabato, qui, lui, dans son roman Héros et Tombes, nous offrait en entier le manuscrit paranoïaque et complètement déviant de son personnage qui s'appelait Fernando Vidal Olmos, donc qui s'appelait le rapport sur les aveugles et qui, en soi, est devenu une sorte de classique de la littérature argentine, qui, d'ailleurs, on parlait de Wikipédia tantôt, mais c'est intéressant, mais le rapport sur les aveugles a droit à sa propre page Wikipédia, là, en espagnol. C'est un document qui est comme étudié pour et en lui-même dans la littérature argentine. Donc, dans mon projet de suivre cette structure-là, c'était évident que je reproduisais le rapport sur les anthropophages en entier. C'est-à-dire que moi, j'invente cette secte-là, et c'est Ambrose Bierce qui est en train d'écrire le rapport lui-même. Donc, évidemment, le lien avec les anthropophages, pour moi, est intéressant parce que c'est le symbole dont on parle depuis tout à l'heure. C'est le symbole de la cannibalisation des influences, la cannibalisation des vies des autres. Pour moi, c'est un thème qui est abordé dans le roman de façon quasiment explicite à certains passages, dont qu'Alexandra écrit, sur lesquels Alexandra réfléchit. Et ensuite, c'était évident pour moi que le cannibalisme était à explorer, justement, pour faire écho à ce que vous disiez il y a quelques minutes, pas tant du côté du cannibalisme qu'on a étudié beaucoup, que les anthropologues ont étudié beaucoup du côté des peuplades autochtones de l'Amérique du Sud, mais du côté européen, comme le cannibalisme en tant que vieille tradition millénaire de la recherche du pouvoir, qui s'inscrit aussi dans une certaine vision du catholicisme qui navigue entre les croisades et tout ça, avec une vieille tradition européenne qui se passe depuis Gilles de Rais et tout à l'époque du Moyen Âge, à l'époque de Jeanne d'Arc, et qui se transfère en Amérique avec les conquistadors qui arrivent.
Alors pour finir, Ernesto Sabato écrit dans sa note à la première édition, qui date de 1961, je cite, « Certaines fictions sont pour leur auteur un moyen de se libérer d'une obsession qu'il ne parvient pas à définir clairement. » Vous êtes-vous libéré de la vôtre?
Non, mais je crois que ça participe évidemment. Je pourrais pas être plus d'accord avec Sabato évidemment sur ce point de vue-là. Je pense pas que ça libère des obsessions, mais disons que ça participe à une forme de tentative de les explorer puis de les pousser à bout. Moi, mon obsession, elle est évidemment, mes obsessions sont multiples, mais dans le cas du rapport avec l'œuvre du maître, ben il y a évidemment quelque chose qui poursuit dans l'optique de cette idée que j'évoquais tout à l'heure du cycle romanesque, dans la mesure où, comme vous le savez, Sabato a publié 3 romans dans sa vie, Le Tunnel, Héros et Tombe et L'Ange des Ténèbres une dizaine d'années plus tard. Donc, dans mon obsession, dans mon fantasme d'écrivain, il y a évidemment ce projet-là qui se poursuit là, de la mise en abîme puis de la reproduction de l'œuvre de Sabato. Là. Donc, ça, c'est encore une fois un droit que je m'octroie et une ambition que je savoure et que je dévore, celle de poursuivre cet hommage-là, ce clin d'œil-là dans les prochaines années. Quitte à, évidemment, penser à autre chose un jour, eh oui, c'est possible, on va peut-être s'en débarrasser.
Voilà, aurez-vous le cran de lire le rapport sur les anthropophages vous-même? Oserez-vous partir à la recherche de Françoise? Vous laisserez-vous séduire par l'histoire de cette odyssée américaine d'un autre genre? Voici assurément un plaisir de lecture qui obsède Daniel Grenier, Héroïne et tombeau, paru en 2023 aux éditions Héliotrope. Merci Daniel d'être passé à Mission Encre Noire. Dans une autre vie de Pascal, je ne suis ni une autrice, ni une créatrice. Je n'écris pas, je ne fais rien. J'ai beaucoup de vêtements, mais je ne vais pas nulle part. Je ne me déplace jamais, mon corps ne sert jamais à me déplacer. Me rendre d'un point à un autre en une longue tresse patiente, c'est juste pour moi. C'est juste pour être belle entre mes propres mains, un petit morceau de miroir scintillant mais inutile, qui n'attrape rien des opacités, qui garde les meubles, les objets, les corps en place. Je suis serveuse ou vendeuse, c'est ce que je fais de plus avec mon corps. C'est à travers ces transactions que je me présente au monde, que j'arrive et me dérobe avec le bruit habitué d'une carte de crédit qu'on passe dans la petite machine. Quand je me maquille pour la nuit et ce n'est que ça. Je fais ce cadeau à la nuit, une paupière enduite de fard bleu sombre ou vert Bottega. Je sors fumer une cigarette sur laquelle je laisse un cercle rosé et je regarde le ciel liquide se transformer en une piscine ouateuse traversée d'éclairs. Je ne sers à rien d'autre. Mes yeux auront au moins su capter la vie, ce tumulte duquel je glisse. Ceci est un extrait de Trop de Pascal par Pascal Bérubé, paru en 2023 aux éditions Triptyque dans la collection Queer. Qui es-tu, Pascal? Ou plutôt, qui aimerais-tu être? Qu'est-ce qui te définit vraiment? Serait-ce le reflet d'une mère aimée, un vêtement, une image, un code numérique, une star de ciné? Quelle identité saisir lorsque l'on passe autant de temps devant des écrans? Qu'est-ce que cela creuse en nous qui nous sépare de l'enfance? Qui est alors ce visage reconnu dans la glace du miroir? Que faire de tout ce vide qui nous entoure soudain au détour d'une image numérique, froide et figée dans son code? Surtout si l'on refuse de se conformer à tous ces visages calculés à la mesure des désirs ordinaires. Comment exister lorsque l'on préfère à une image lisse et entendue de la féminité l'envie d'être chienne, savante ou non? Pascal, Pascal, qui est-elle? Que sais-je, qui suis-je? Pascal Bérubé signe ici un premier recueil magnétique qui explore les thématiques du corps, de l'image, de la beauté, de la féminité et de l'identité. Qui es-tu quand ton corps fait du cinéma? Pour en savoir plus, j'accueille ce soir à Mission Encre Noire Pascal Bérubé. Bonsoir Pascal.
Bonjour, bonsoir. Enchanté, puis magnifique description de ce qu'est la troupe de Pascal en passant.
C'est
exactement ça, c'est tous ces questionnements-là un peu dans la contradiction d'une certaine façon. Puis j'écoutais en fait le descriptif qui sonnait un peu comme un questionnement. Puis, c'est ça en fait, c'est que c'est un ce n'est pas nécessairement une accusation plus qu'un questionnement, parce que je suis moi-même dans la, je suis moi-même dans le rapport à l'image. Donc, c'est toujours cette espèce de rapport-là très contradictoire entre, d'une façon, la critique, mais en même temps, le fait d'en être aussi victime, mais aussi joueuse, aussi dans le... C'est l'idée, en fait, c'est d'en jouer aussi, je veux dire, c'est de saisir ce rapport-là vraiment compliqué avec le reflet, puis le monde de l'image, puis essayer de l'ausculter, d'essayer de le de questionner. Puis, c'est aussi tout le rapport au mimétisme, donc, qui est Pascal, depuis l'enfance, j'entretiens un rapport quand même particulier avec le reflet des autres femmes. Celle des films, celle des magazines, donc etc. Maintenant, avec l'Internet, celle de l'Internet. Puis c'est toujours de ce rapport-là étrange à tenter de se retrouver dans les autres femmes, puis à voler un peu comme certaines choses de ces autres femmes-là pour me construire moi.
Alors, Pascal Bérubé, vous êtes autrice et poète. Vous vous questionnez sur la féminité, le corps, la beauté, l'image et le monde virtuel. Dans le cadre du Festival du Jamais Lu 2018, vous collaborez avec Marjolaine Beauchamp et Mélopée Montminy pour la performance Get Shot. Vous avez été publié dans plusieurs collectifs, Zodiac et Pauvreté en particulier, des revues dont Estuaire, Moebius, Lettres québécoises, Trop de Pascal et votre premier livre. Il y a d'abord... cette dédicace pour Pascal, celle au pluriel qui entre en moi, celle au pluriel qui en ressorte, toute au pluriel. Qui résume peut-être déjà votre titre, à la différence près que Pascal, la Pascal du titre porte une majuscule. Alors pourquoi ces choix? Quelle forme a le monde de Pascal?
Oh mon Dieu, bonne question. Déjà pour la dédicace... ça m'est comme apparu un choix naturel de m'auto-dédier le livre, la livre. Parce que, comme je répète souvent, la troupe Pascal est un objet féminin, donc ce n'est pas un livre, mais une livre. Puis oui, c'est même pas de l'ordre de l'ego nécessairement, c'est que ça m'apparaissait naturel de dédier la troupe de Pascal à tous les Pascal qui entrent et sortent, parce que c'est directement relié avec le processus de création puis avec ce qui se retrouve dans la troupe.
Derrière ce titre, Trop de Pascal, y a-t-il un enjeu d'authenticité? Je veux dire, cette écriture est quand même une expérience singulière, savoir qui se cache vraiment derrière nos masques. Cherchez-vous nécessairement à vous reconnaître, à vous entendre, ou bien êtes-vous plus dans la découverte, dans la performance, comme vous pouvez le faire avec d'autres médiums, par exemple?
Je suis toujours d'une façon ou d'une autre, je crois, dans la performance. L'art de performance influence beaucoup, en fait, ce que je fais dans mon rapport à la création puis au monde en général. Puis j'ai aussi l'impression que ça m'a toujours en fait un peu tiqué quand on parle d'authenticité, parce qu'on associe souvent le fait d'être authentique avec certains traits. Par exemple, une femme qui porte pas de maquillage, on va dire « Ah, cette femme-là est authentique ». Mais ça m'a toujours apparu un peu comme surfait, parce que on peut naître, je crois, artificiel. On peut naître un peu décalé ou un peu fausse. Puis c'est aussi une forme d'authenticité. Je veux dire, je crois qu'on associe le fait d'être authentique avec des traits très spécifiques qui sont pas nécessairement toujours valides ou valables. Puis dans mon cas, c'est ça, comme j'expliquais, je crois que j'ai un rapport, un besoin, en fait, de me reconnaître ou de me trouver, de trouver des indices de moi, en fait, à travers les autres femmes puis leur présence. Puis c'est ça, ça crée une espèce d'authenticité qui est construite, mais qui est en même temps probablement plus sincère qu'une authenticité qui serait jugée comme plus... naturel, j'ai envie de dire.
Mais vous opposez parfois deux images, ce que vous nommez les femmes à l'envers, chiennes impitoyables, aux poils de sourcils mal repoussés, et les femmes normales, aux franges courtes, douces, gentilles, qui existent dans le moment, leurs bras tout entiers flottant en dehors des portières de voiture, de beaux objets invincibles qu'on pourrait retranscrire numériquement et mettre en onde. Pourquoi cette opposition entre les femmes à l'envers et les femmes normales?
Ben, c'est tout en fait cette contradiction-là, c'est l'espèce de dichotomie en fait entre vouloir comme incarner son artificialité, j'ai envie de dire, puis de trouver une espèce de vérité à travers tout ça. Puis aussi, justement, par rapport au fait d'être authentique selon certains traits, c'est d'être un peu confronté à ces femmes-là qu'on juge plus authentiques ou plus naturelles versus une personne comme moi qui est très construite, j'ai envie de dire. Puis c'est ça, mais c'est jamais comme dans le jugement, c'est vraiment comme j'avais envie de questionner doucement toutes ces choses-là, puis tout mon rapport comme compliqué, complexe à ces contradictions-là, à ces dichotomies-là. Puis c'est ça, puis mon point en fait, c'est que l'authenticité est autant artificielle que l'artificialité, je crois, parce que ça demeure d'une façon quelque chose qui est construit socialement à travers le regard des gens. Aussi, comme j'expliquais, j'ai l'impression que souvent les gens vont dire « Ah, cette femme-là est authentique justement, par exemple, le fait de ne pas porter de maquillage ou de dire certaines choses d'une certaine façon, d'avoir un rapport au monde qui est inscrit dans quelque chose de très naturel. » Puis c'est ça, puis je suis pas en train de dire que j'ai pas des moments de naturalité, mais je me retrouve quand même naturellement vers une forme d'artificialité qui, pour moi, m'apparaît sincère. Puis c'est ça, j'avais envie de m'adresser en fait aussi à ces personnes-là, à ces femmes-là qui ont un peu le même rapport que moi à ces choses-là, puis de complexifier tout ça, d'offrir une parole qui est compliqué, qui est complexe, qui se questionne sans jugement, mais qui est pas dans les partis pris, j'ai envie de dire, en fait, qui est pas dans dans ce qu'on entend d'une parole féminine. Puis dans mon cas, bon, comme femme trans, c'est important pour moi de ne pas parler du fait, en fait, de ma transitude, parce que ma parole est queer, parce que je suis une femme trans, mais j'avais pas envie d'éduquer les gens, j'avais pas envie de c'est ça, je voulais juste moi comme femme parler du féminin puis de l'identité de la façon la plus complexe possible, puis d'aborder tous ces ces questionnements là que j'ai depuis longtemps.
Alors derrière le mot authentique résonne quand même à vous écouter une certaine forme de violence dans les mots, dans ce mot-là, en tout cas dans d'autres bien sûr évidemment. Est-ce que la poésie vous permet de mettre en lumière justement cette violence? Est-ce une manière de témoigner sur une certaine loi du silence? La beauté soumet le monde finalement à une certaine norme?
Ben c'est ça. Oui, bon, je veux dire, l'écriture, la poésie, c'est, je crois que c'est souvent un déclencheur, ou en fait, c'est une façon de synthétiser des sentiments, des questions, des émotions qui sont peut-être autrement trop complexes pour en parler d'une façon plus simple. Puis, par rapport à la beauté, c'est ça, comme j'expliquais, je suis pas en dehors de ça, je suis moi-même dans cette poursuite-là de la beauté où je me positionne pas en fait comme contre la beauté, mais en même temps, ce que je réalise, c'est qu'on a souvent une perception très mince de ce qui est considéré comme la beauté chez une femme. Puis même si je participe moi aussi comme femme à ces éléments-là, j'ai quand même un agacement parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis j'entends souvent la phrase stéréotypiquement belle. Donc, que la société en fait, ce que les hommes aussi ont décidé qu'il était jugé beau chez une femme. Puis j'ai l'impression que la beauté est tellement plus que ça, tellement plus compliquée, tellement plus aride parfois, plus austère. Puis il y a tellement d'éléments comme qui créent ce qu'est la beauté que j'ai pas envie non plus que mon rapport à la beauté, la mienne, puis celle des autres femmes, puis en général, soit comme détenu dans un minuscule couloir. J'ai envie qu'il y ait des cloisonnements, puis qu'il y ait une liberté. Mais comme j'expliquais le rapport à la contradiction, c'est que je suis aussi dans ces éléments-là stéréotypé face à la beauté. Donc c'est ça, c'est toujours comme la dichotomie constante entre ces intentions-là.
Alors, je vous cite, « J'aimerais ne pas être une étrangère. Les femmes qui habitent ma tête, des dangereuses, des femmes qui glissent sur les genoux chauds de la colère. » Aimeriez-vous être la femme la plus dangereuse du Québec, incarner une poésie de fille missile contaminante à la José Yvon, dénoncer les filles en série d'une Martine Delvaux, ou s'agissant d'identité, être dans la peau d'une Nelly Arcan? Qu'est-ce qui vous attire chez ces écrits?
Déjà, je crois que José Yvon est une voix hyper importante. La poésie féminine, la poésie en général au Québec, mais je me réclame pas de son travail parce que j'ai pas vraiment lu beaucoup José Yvon. J'ai l'impression d'avoir peut-être plus une sororité avec une Nelly Arcan qui était elle-même dans l'engrenage de la beauté, mais qui questionnait la beauté aussi. Donc ça me rejoint plus. Puis j'ai envie aussi de dire que j'ai envie d'être la femme la plus dangereuse du Québec. La notion de danger, ça m'intéresse. J'aime les femmes qui sont dangereuses, qui sont un peu effrayantes. Pas nécessairement physiquement, mais dans leurs intentions. J'aime les femmes qui débordent du cadre, qui deviennent un peu surhumaines ou un peu tellement étranges dans leur façon d'être qu'on a l'impression de plus être devant des femmes, mais devant des créatures un peu. C'est quelque chose qui me fascine. Mais c'est ça, je me suis avoir vu la fureur de ce que je pense. Qui est une pièce adaptée de librement des textes de Nelly Arcan. Puis ça m'avait frappé, puis je me disais, ah oui, je me reconnais là-dedans, dans ce rapport-là, complètement dichotomique à la beauté. Puis en même temps, Nelly Arcan était aussi une femme qui était dedans, qui était dans le rapport à l'image à 100%, mais qui arrivait aussi à questionner ce rapport-là. Puis je crois que c'est... J'ai pas l'aspect un peu de marginalité d'une José Yvon. Je me réclame pas de la marginalité, même je crois que c'est important. Mais pour moi, marginal, c'est souvent quelque chose comme à coller. Ça a toujours créé chez moi une espèce de sentiment d'étouffement ou de... j'ai pas l'impression d'être libre dans la marginalité du tout.
Est-ce que justement cette marginalité est un peu un masque obligatoire? Tu dis, mais je ne trompe personne, une surface n'est jamais qu'une façade de maison, le masque ordonné qui précède. Qu'est-ce qui précède dans l'identité qui te fait écrire d'ailleurs « Avant d'être ici, j'étais une femme d'ailleurs à qui on n'avait octroyé aucune fonction ?»
C'est une bonne question. Ben en fait, ce qui précède cette présence au monde-là, c'est aussi une performance, c'est aussi un rapport à l'intimité. J'aime beaucoup écrire, tout ce qui précède un texte ou un poème est une performance. Donc, avant d'arriver à cette présence au monde, avant d'offrir une image, il y a tout un cheminement intime qui est présent, qui n'est pas nécessairement perceptible à l'œil nu, mais c'est ce qui amène au monde. Pour moi, c'est ce qui amène à la création, à la présence. C'est tout ce rapport comme intime aux choses, à la présence.
Il est beaucoup question d'identité et de choix dans vos mots, mais exister est un choix qui s'oppose à une norme imposée. Je vous cite, « Il y a toujours un homme quelque part pour me dire que j'ai l'air d'une actrice ou d'un mannequin, ou pire encore, que je ressemble à ce visage rond sur un panneau publicitaire, mais ce n'est jamais de moi qu'il s'agit. » Il y a comme un paradoxe ici d'un point de vue créatif. Pascal se doit d'apparaître, d'exister en pleine lumière, de briller dans l'œil des hommes, mais contre la norme. Et en contraste, subsiste un désir plus obscur de rester anonyme. On se demande, mais où se situe l'authentique Pascal, même si le mot est peut-être mal choisi, je dirais le... Où se situe Pascal?
C'est une très bonne question, encore une fois. Puis encore une fois, ça m'évoque beaucoup de contradictions. Je ne sais pas comment vivre en fait sans être dans toutes ces contradictions-là. Puis la pire tragédie, je crois, c'est de n'exister comme que dans le regard masculin, même si comme femme, trans ou pas, hétérosexuelle, il y y a toujours un peu de ça dans le... Puis en fait, quand ces hommes-là, justement, qui me disent « Ah, tu me fais penser à telle actrice, tel mannequin, bon, peu importe. » C'est aussi le rapport au mimétisme. Je suis fasciné, justement, par les histoires de femmes qui usurpent l'identité d'autres femmes, les reflets, bon, une femme qui en devient une autre, tous les processus de transformation. Puis c'est un peu ça, c'est que comme être humain en général, mais spécialement pour les femmes, on nous recouvre de tellement d'intentions, de tellement de filtres, d'images, qu'on a souvent l'impression que les copies de nous-mêmes arrivent à mieux exister que nous-mêmes d'une façon. Il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que nous ce qu'on fait ou qui nous ressemble mieux que nous-mêmes.
Votre mère est très présente aussi. Est-elle dans le recueil une sorte de refuge dans tout ce bruit de communication, de consommation, de paraître?
Je ne sais pas si ma mère qui est décédée au mois d'octobre passé est un refuge plus qu'un double. Parce que ma mère était aussi beaucoup comme obsédée par son image, puis bon, c'était toujours un peu tout ce rapport-là, un peu d'inachèvement, bon, comme couper sa frange, mais c'est jamais exactement ça, c'est jamais comme ce qu'elle voulait. C'est toujours cette espèce de recherche qui aboutit un peu comme pas à rien, mais jamais exactement à son désir premier. Puis j'avais déjà dit en fait que même si la trouve m'est dédiée à moi, j'ai l'impression que ma mère entre tous les miroirs dans la trou. Sa présence est comme multipliée. Donc, ce serait plus comme ça, pas nécessairement un refuge, plus qu'un double, plus qu'une entité féminine qui est dans l'espèce de même rapport très compliqué comme à son propre reflet, puis à sa présence au monde.
Alors, quel est ton rapport à l'écriture versus l'image, les réseaux? Je te cite, « J'aimerais être une actrice pour avoir droit à l'abandon. » Est-ce que tu y crois d'ailleurs vraiment à l'abandon devant la caméra, devant l'image?
Oui, il y a quelque chose dans l'acte d'acter, pour moi, qui est près de l'abandon, parce que c'est d'être dans un corps, mais soudainement devenir une autre personne. Puis il y a cette espèce de rapport-là, justement, à l'oubli de soi, comme quand on dit cette actrice-là joue sans égo, ben c'est ça, c'est de devenir complètement quelqu'un d'autre, l'espace comme du tournage, une scène, puis de plus être du tout dans l'égo. Puis par rapport au lien entre l'écriture puis l'image, pour moi les deux sont interreliés. Bon, déjà d'un, parce que c'est hyper important pour moi que ma pratique littéraire soit influencée par d'autres médiums, par d'autres l'art visuel, la performance, tout ça. Je crois que, je sais pas, je pourrais écrire sans être dans l'image. En même temps, comme je dis souvent, je vais pas me limiter non plus. Je pourrais arriver avec quelque chose de complètement différent, mais présentement, ce rapport-là intrinsèque à l'image est comme en filigrane constamment de ma pratique d'écriture. Les deux se nourrissent. Même quand tu sais, j'ai pas vraiment je sais pas, je pense à des gens comme, pour citer des noms très très connus comme Amélie Nothomb, bon, qui a une pratique d'écriture très réglée comme à l'horloge. J'ai pas de routine comme ça parce que j'en suis incapable. Je suis constamment en train d'écrire dans ma tête ou de prendre une note ou de mais c'est ça ce qui m'influence, c'est ça, c'est de me croiser dans un reflet de cabine d'essayage. Je peux probablement plus m'inspirer qu'une grande histoire rocambolesque.
Où est ma femme à moi? Il y a ce texte final curieux. Vous créez une intrigue sous une pluie fine, nue, lisse comme un poisson. Vous accomplissez le fantasme ultime de donner naissance, en quelque sorte. Vous concluez par « Nous aurons servi à nous aimer, à éclater les surfaces réfléchissantes, à nous répandre partout d'un système électronique à un œil. » Alors justement, ce recueil est-il en quelque sorte votre acte de naissance en écriture, et qu'est-ce qu'il vous révèle jusque-là?
Ben oui, totalement. J'ai même déjà dit que pour moi, c'était un peu ma mise au monde littéraire. Puis je crois qu'il y avait un article de Samuel La Rochelle dans Le FUC qui tenait en fait les mêmes propos. Puis avec La Troupe Pascal, c'est comme un peu ma façon d'arriver au monde comme autrice, comme créatrice. C'était comme pour moi impossible d'écrire La Trousse sans qu'il y ait cette rencontre-là entre moi et moi. Comme j'expliquais, j'ai comme un rapport vraiment comme particulier à l'idée du double. Je voulais vraiment que la partie finale de la trouve aborde en fait ce moment-là un peu onirique où est-ce que Pascal rencontre une autre Pascal qui est comme identique avec certaines différences, puis que les deux se, en fait que les deux se rencontrent soit comme en relation, comme de filiation, puis pour les mots finaux, j'aimais vraiment l'idée de cette présence-là qui devient comme, ça va tellement sonner prétentieux, mais comme incontournable. En fait, comme l'idée que les Pascal sont complètement répandus partout, dans les yeux des gens, dans les systèmes électroniques, puis que ça crée une espèce de contamination comme générale où est-ce que la trouille comme complètement comme partout, qui est presque un peu comme, j'ai envie de dire, de l'ordre, un peu de la science-fiction, tout ça. Puis c'est ça, je voulais que la livre se termine comme ça, dans une espèce de sentiment presque apocalyptique où est-ce que les Pascal sont comme partout.
Elles se répandent.
Avec presque une menace, un peu comme de...
Exact. Pour finir, je vous cite, « Le langage est un matériel d'exagération, d'amplification de la matière, tout comme les fards cosmétiques ou les vêtements, comme le cri qu'on préfère au murmure. » Pour certaines, c'est un refuge, pour d'autres, une révélation. Est-ce qu'écrire ce premier recueil est synonyme de libération, comme de briser un tabou, faire tomber une barrière peut-être?
Ben oui, comme j'expliquais tout à l'heure, déjà comme femme trans, c'était hyper important pour moi que ma première livre, ma propre livre moi-même, c'est fâcheux. C'est ça, il y avait quelque chose pour moi de la subversion d'arriver, de ne pas parler de ça. Puis c'est important qu'on en parle aussi, mais je voulais vraiment arriver avec une parole de femme trans qui n'aborde pas ça, puis que ce soit vraiment juste une parole de femme, trans ou pas, qui soit dans ce rapport-là compliqué à l'image. Puis pour moi, c'est un peu ma façon de subvertir, mais aussi déjà les attentes des gens. Parce que les gens s'attendent à ce que toutes les personnes trans créent quelque chose qui soit nécessairement pédagogique. Puis j'avais pas envie du tout de faire ça. Même si encore une fois, c'est important que ça se fasse, qu'il y ait des paroles, des voix qui existent, qui abordent un peu plus ce rapport-là, presque autobiographique. C'est ça, pour moi, c'est comme ma façon d'arriver comme au monde, subvertir les attentes des gens, puis d'arriver à quelque chose qui, je vais pas dire complètement comme différent de ce que les gens connaissent de moi, qui aborde pas certaines choses, puis qui choisissent certains angles à l'opposé de d'autres angles.
Voilà, avoir le corps qu'il faut. Qui est donc Pascal? Ce premier recueil interroge ces reflets de nous-mêmes dans un monde où tout bouge, tout tremble sans cesse. Comment saisir des bouts de soi dans le concert des reflets déformants d'une féminité obligée? Je vous conseille la lecture excessive de ce premier recueil, Trop de Pascal, par Pascal Bérubé, paru en 2023 aux éditions Triptych dans la collection Queer. Merci Pascal d'être passé à Mission Encre Noire. Voilà qui met fin à Mission Encre Noire ce soir. J'ai reçu en première partie d'émission Daniel Grenier pour nous présenter Héroïne et Tombeau, paru en 2023 aux éditions Héliotrope, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, Pascal Bérubé est venu nous présenter Trop de Pascal, un recueil de poésie paru aux éditions Triptych dans la collection Queer. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là!
Fedeu, acho que... Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava fazendo, tava entupido. Gostoso! Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein?
É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
Jorjão! Vai, garoto!
Fala a verdade.
Isso tá bom.
Não. Cadê a cerveja que não sai? Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso.
Agora um aranha, um aranha.